Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui décortique toute l'actualité de la semaine. Pour cette première émission de 2024, on se replonge directement au cœur des actualités brûlantes des derniers jours. Pour ce faire, Alexandre nous expliquera comment Gérald Darmanin a aidé le Paris Saint-Germain à ne payer aucun impôt sur le transfert de Neymar en 2017. À l'international, Charlotte nous parlera des élections à Taïwan. Ensuite, Paul reviendra sur les conséquences de la vague de froid qui a touché l'Hexagone cette semaine, un phénomène qui a eu des conséquences sur le prix de l'électricité chez les Français. Côté sport, Benjamin se penchera sur le cas Émilie Gomis, l'ancienne ambassadrice des Jeux qui a dû quitter son poste après sa prise de position dans le conflit Israël-Hamas. Enfin, pour les recommandations, Tristan vous dressera un planning détaillé de tous les événements importants qu'il ne faut surtout pas louper pendant cette année 2024. Mais tout de suite, c'est le Affluoté avec Jeanne.
Gabriel Attal, nouveau Premier ministre du gouvernement Macron, qui dit nouveau Premier ministre dit changement au sein du gouvernement. Amélie Oudéa-Castéra devient ministre de l'éducation et de la jeunesse, en plus des sports et des Jeux olympiques. Stéphane Séjourné devient ministre des Affaires étrangères et Rachida Dati, ministre de la Culture. À seulement 34 ans, l'ancien porte-parole du gouvernement est tout juste ancien ministre de l'éducation et le plus jeune Premier ministre de la 5e République. L'Équateur placé en état de conflit armé interne, le pays est en proie à une crise sécuritaire après l'évasion de la prison de Guayaquil du chef de gang Adolfo Macias dit Fito dimanche 7 janvier. Toujours en cavale, ça fut à déclencher une cascade de mutineries et de prises d'otages de gardiens dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays. Depuis 2011, il y purgeait une peine de 34 ans pour crimes organisés, trafic de stupéfiants et meurtre. Franz Beckenbauer et Thierry Desmarais ne sont plus. Le premier est une légende allemande du football, ancien capitaine de la sélection ouest-allemande dans les années 70, sélectionnaire de la Mannschaft et ancien dirigeant du Bayern Munich dans les années 90. Le second est l'ancien PDG de Total qui en avait fait une compagnie de taille mondiale, connu aussi parce que critiqué pour la gestion du naufrage du pétrolier Erika et de son manque de compassion dans l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Ils avaient tous les deux 78 ans.
C'est officiel, 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée.
Mardi, l'observatoire européen Copernicus a publié son bilan annuel. Selon ses données, la planète n'a probablement pas connu de température aussi élevée depuis au moins 100 000 ans. Cette année, la moyenne des températures établies est presque de 15 degrés à l'échelle globale. Anatomie d'une chute, doublement primée aux Golden Globes. Le film a reçu le prix du meilleur film en langue étrangère et celui du meilleur scénario. C'est une première pour un long métrage français depuis la création de la cérémonie en 1944. Le 23 janvier, la liste des nommés aux Oscars sera annoncée et le film a de fortes chances de repartir avec plusieurs statuettes.
Cette semaine, on a aussi eu le nom des futurs porteurs de la flamme olympique pour les JO 2024.
Les premiers porteurs ont été dévoilés mercredi. Il y aura notamment Laura Flessel, Camille Lacour, Pascal Gentil ou encore Jean-Philippe Gatien. Ils porteront tous la flamme qui sillonnera la France à partir du 8 mai.
Debout !
Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Moi ! Mais qui elle est celle-là ?
Quelle indignité.
Été 2017, alors que le transfert de Neymar entre le FC Barcelone et le PSG se prépare, Gérald Darmanin, à l'époque ministre des Comptes Publics, va jouer un rôle intéressant dans cette transaction, Alexandre.
Intéressant parce que Gérald Darmanin va tout simplement permettre au PSG de ne payer aucun impôt sur ce transfert record d'un montant de 222 millions d'euros. Une somme que le joueur doit régler lui-même selon son contrat. Le PSG doit donc d'abord verser l'argent au joueur. Sauf que le risque est gros pour Paris qui pourrait se faire imposer par l'État français à hauteur de dizaines de millions d'euros. Panique alors chez les Qataris, pas question pour eux de verser un seul euro de plus pour ce transfert.
Et c'est à ce moment que le cabinet de Gérald Darmanin, à l'époque ministre des Comptes Publics, a été appelé à la rescousse.
C'est en coulisses que tout se joue. Le directeur de la communication du club parisien Jean-Martial Ribes demande de l'aide à son très bon ami, le député macroniste Hugues Ranson, qui est aussi à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale. Le 24 juillet 2017, le macroniste est invité à un rendez-vous avec le président du PSG en personne, Nasser El Khelaifi. Un rendez-vous qui semble concluant pour le club parisien, puisque suite à cette rencontre, le député évoque le problème avec Gérald Darmanin qui promet de se pencher sur la question. Et c'est chose faite très rapidement. Dans la soirée, le directeur du cabinet de Darmanin envoie simplement la marche à suivre au club parisien pour échapper à l'impôt sur le transfert de Neymar. Et tout ça de manière légale, affaire réglée pour le PSG qui vient d'économiser plusieurs dizaines de millions d'euros d'impôts grâce au ministre lui-même.
Depuis ces révélations, l'eurodéputé LFI Manon Aubry a saisi la justice, mais Gérald Darmanin n'a toujours pas réagi à cette affaire. Dans le reste de l'actualité, 8 régions attaquent SNCF Réseau devant le Conseil d'État pour des tarifs jugés trop élevés.
Hauts-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine notamment, elles dénoncent toutes une augmentation des péages ferroviaires trop élevés pour 2024, 2025 et 2026. Les régions financent les TER et craignent que le reste à charge soit payé par les usagers.
Le procès de l'affaire Théo a débuté cette semaine et doit s'achever vendredi prochain.
Un procès dans lequel comparaissent 3 policiers. Ils ont participé à l'interpellation de Théodore Luaca il y a 7 ans. Le jeune homme, âgé de 22 ans au moment des faits, avait été blessé au rectum par la matraque télescopique d'un policier. L'auteur du coup de matraque risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Et petit conseil, restez attentifs, le verdict doit être rendu par la cour d'assises de Bobigny le 19 janvier prochain.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream. Be you. Be proud of you.
Les Taïwanais sont appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président, vice-président et leurs députés.
Qui succédera à la présidente Tsai Ing-wen après ses 8 ans au pouvoir ? 3 candidats s'affrontent lors de ce scrutin à un tour, Lai Ching-te du parti du pouvoir, Hu Yui du principal parti d'opposition et l'outsider Ko Wen-je du parti populaire taïwanais. La présidente actuelle, qui ne peut pas se représenter au terme de 2 mandats, espère donc voir son dauphin Lai Ching-te, vice-président du Parti démocrate progressiste, prendre le relais.
La Chine suivra également de près ces élections.
Alors que de nombreux sujets ont animé la campagne présidentielle ces dernières semaines, la question des relations avec Pékin s'est évidemment rapidement imposée comme un thème central. La Chine, qui a recommandé jeudi aux États-Unis de ne pas se mêler de l'élection présidentielle à Taïwan, a pourtant appelé les Taïwanais à faire le bon choix pour le scrutin du 13 janvier. Pékin a également pris pour cible le candidat du parti présidentiel, le favori des sondages, et a estimé que M. Lai représentait un grave danger. Le régime chinois a déclaré que si Lai Ching-te arrivait au pouvoir, il pourrait donc continuer à promouvoir les activités séparatistes liées à l'indépendance de Taïwan. Puis Pékin a indiqué aux États-Unis que le gouvernement chinois ne fera jamais le moindre compromis à propos de l'archipel.
Les énergies renouvelables mondiales en hausse, mais cela reste malgré tout insuffisant.
Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie rendu public le 11 janvier a montré que le monde a installé 50% de capacité électrique renouvelable en plus en 2023 par rapport à 2022. Au total, ce sont 507 gigawatts qui ont été mis en service et les 3/4 de ces installations ont d'ailleurs été dans le solaire photovoltaïque. Malgré une croissance qu'on peut qualifier d'historique, ce rythme n'est pas suffisant face au réchauffement climatique. L'AIE demande donc logiquement un effort supplémentaire pour les années à venir.
Côté Europe, on peut noter une avancée significative pour la Grèce.
Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, souhaite légaliser le mariage homosexuel et également accorder le droit à l'adoption aux couples du même sexe. Alors qu'il n'a pas précisé quand le projet de loi serait soumis aux députés, les médias grecs ont annoncé que cela devrait arriver avant les élections européennes de juin. La Grèce étant encore un pays où le modèle familial traditionnel prédomine, ce souhait du gouvernement grec risque de se heurter à une certaine opposition des plus conservateurs et d'une partie de la société.
This is Elon Musk. Nous ne sommes pas à Winterfell et pourtant, l'hiver est bel et bien arrivé en France. Chute de neige, température négative dans la plupart des régions du pays, cela a suffi pour relancer 2 centrales à charbon pour faire face à cette vague de froid.
On est d'accord, le temps des peaux de bête sur les épaules pour se réchauffer est bien révolu. On aurait pu croire que celui des centrales à charbon l'était aussi, mais ce n'est pas encore le cas. Cette semaine, les centrales de Saint-Avold, dans la Moselle, et de Cordemais, en Loire-Atlantique, ont repris temporairement du service. Le but de ce redémarrage est de produire suffisamment d'électricité pour compenser la hausse de consommation dans les foyers français. Le président de la République, Emmanuel Macron, a promis de fermer ses 2 centrales d'ici la fin de son quinquennat. Si tous les hivers sont un petit peu rudes comme celui-ci, il va bien falloir trouver d'autres solutions pour éviter de toucher encore une fois le porte-monnaie des Français.
D'autant plus que le prix de l'énergie est toujours aussi élevé, Paul.
Et ça risque de continuer en 2024. Pourtant, cette nouvelle année aurait pu commencer sous de meilleurs auspices. Le bon niveau des stocks de gaz et des réserves d'eau dans les barrages et l'effort de sobriété des ménages et des entreprises ont entraîné une baisse de 30% sur le prix de l'électricité sur les marchés de gros ces 6 derniers mois. Pour rappel, il désigne le marché où l'électricité est négociée avant d'être livrée aux particuliers et aux entreprises. Cette baisse signe la fin du bouclier tarifaire et donc une perte de plusieurs milliards d'euros dans les caisses de l'État. et qui dit trou dans les caisses dit généralement nouvelle taxe. Si la Commission de régulation de l'énergie propose une baisse de 0,35% des tarifs réglementés de l'électricité pour le mois de février, le gouvernement envisage une hausse de 10%. Alors baissera ou baissera pas, le verdict sera donné la semaine prochaine.
C'est sorti ce mercredi, d'après les chiffres de la Direction Générale des Douanes, les Français franchissent de moins en moins le pas des bureaux de tabac.
Moins de 1,5 milliard de paquets de cigarettes vendus dans l'Hexagone l'an dernier, soit une baisse de 8% par rapport à 2022. Les clopes ne sont pas les seuls concernés par cette chute des ventes. Moins de 6% pour les cigares et moins de 8% également pour le tabac à rouler. Alors rassurez-vous, les industriels du secteur sont très loin d'avoir la corde au cou et de faire faillite. En cause, la hausse fulgurante du prix du paquet en quelques années et l'achat massif de cartouches depuis les pays frontaliers. Si les Français fument toujours autant, les buralistes ont quant à eux peur pour leur boutique. Le gouvernement Attal va devoir prochainement, suite à une décision du Conseil de l'État, autoriser les consommateurs à pouvoir ramener 800 cigarettes d'un autre pays de l'UE contre 200 aujourd'hui.
Siroter des cocktails dans un restaurant de luxe à Dubaï avec des glaçons venus du Groenland, ce sera bientôt possible.
C'est en effet l'immense pari lancé par Arctic Ice, une start-up danoise basée au Groenland. L'objectif pour cette jeune entreprise, c'est de récupérer des morceaux de glace détachés des icebergs pour les envoyer aux Émirats arabes unis. Ces initiatives ne font qu'accélérer le processus de la fonte des glaces dans cette région du monde. Dans les prochaines années, l'Arctique sera un lieu commercial et stratégique majeur, attirant notamment les convoitises des Américains et des Russes pour ses hydrocarbures.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi, tu me parles pas d'âge.
I recoupe the ball.
Petit tremblement à Paris 2024, où la Française Émilie Gomis a démissionné de son poste d'ambassadrice des Jeux. Benjamin, tu nous expliques pourquoi.
L'information est tombée ce mercredi. Émilie Gomis, l'ancienne basketteuse de l'équipe de France, était contrainte de se retirer de son poste d'ambassadrice des Jeux Olympiques. Son sort a été scellé par une dernière réunion du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de Paris 2024, qui a décidé de l'exclusion de l'ancienne joueuse de 40 ans aux 194 sélections.
Un message sur les réseaux sociaux a déclenché les hostilités.
Oui, en cause un post qu'elle a publié le 9 octobre dernier sur son compte Instagram, soit deux jours après le début des attaques du Hamas contre Israël. On pouvait y voir des cartes de la France de 1947, 1967 et 2023, avec le drapeau tricolore progressivement remplacé par celui d'Israël, avec une question: que feriez-vous dans cette situation ? Pour le comité d'éthique de Paris 2024, cette publication peut être interprétée comme un envahissement de la France par les Juifs, ce qui a donc déclenché son exclusion.
Et ça a même fait réagir jusqu'à la tête du comité d'organisation des JO.
Oui, pour Tony Estanguet, président du COJO, les représentants de Paris 2024 se doivent d'avoir un comportement exemplaire et une volonté d'apaisement au regard de ces sujets. À noter qu'Émilie Gomis a aussi été exclue de la commission des athlètes du Comité national olympique français pour atteinte avérée au principe éthique et n'exerce donc plus aucune responsabilité dans le sport français.
Dans le monde des médias, Europe 1 continue son ascension.
La dernière vague de données Médiamétrie vient de sortir. Et oui, Europe 1, station du groupe Vivendi, atteint les 4% avec près de 2,2 millions d'auditeurs quotidiens. 0,4 points de plus sur un an. France Inter se cramponne, lui, toujours à la première place avec 6,9 millions d'auditeurs quotidiens. Mais pour d'autres, le sourire est un peu plus crispé. RTL, première station privée, s'enfonce de 0,7 points d'audience pour redescendre à 9,7% au global. RMC perd aussi 0,1% par rapport au dernier relevé. À noter qu'au total, 38,7 millions d'auditeurs écoutent la radio quotidiennement. Ce qui représente une baisse de 600 000 personnes sur un an.
Et on va bientôt pouvoir différencier les livres écrits par un humain et ceux rédigés par une IA.
La belle création humaine, c'est effectivement le nom du programme qui va garantir qu'un livre a bien été écrit par une personne physique et non par un logiciel. Ce partenariat avec la maison d'auto-édition Librinova va être lancé mi-janvier. Le logiciel pourra, selon son créateur, permettre d'identifier les contenus réalisés 100% par une IA, non modifiés et qui n'ont aucune variation de style, et donc les distinguer des ouvrages créés par un humain. Pour ce faire, les auteurs pourront apposer un macaron, une sorte de petite pastille sur la couverture de leur livre pour certifier de leur originalité.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré ?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
2024 débute et les concours des écoles de journalisme se rapprochent. Chacune des 14 écoles reconnues possède leurs propres épreuves, mais impossible d'échapper aux questions d'actualité. Tristan, tu te projettes sur les événements qui vont marquer ces prochains mois, des événements à surveiller de très près.
Oui, sortez vos stylos et vos agendas, car ce début d'année 2024 s'annonce chargé, notamment du côté des procès. Ça commence dès le 17 janvier. L'ex-ministre du Travail, Olivier Dussopt, connaîtra le jugement du tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de son procès pour favoritisme. Autre homme politique mais pays différent, Donald Trump va lui être jugé le 4 mars, son premier procès au pénal. L'ancien président est poursuivi pour complot frauduleux contre les États-Unis après avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, on s'en souvient. Enfin, du 29 février au 5 avril, la Cour d'assises spéciale de Paris va tenir un procès hors norme, celui de l'attentat au marché de Noël de Strasbourg où 5 hommes avaient été tués.
Février, c'est aussi une période très importante pour le gouvernement d'Emmanuel Macron.
Et oui, parce que c'est en février que le projet de loi sur la fin de vie va être présenté, un projet aussi attendu que sensible. Deux élections vont aussi marquer ce début d'année. La première, c'est l'élection présidentielle russe du 17 mars. Grâce à une modification de la Constitution, Vladimir Poutine va encore se présenter. Il pourrait donc exercer un cinquième mandat. Puis le 9 juin, c'est au tour des élections européennes. Des élections marquées par la crainte d'une poussée de l'extrême droite, alors que la Hongrie doit prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er juillet.
Mais l'actualité, ce n'est pas que de la politique.
Et non, c'est aussi pas mal de sport avec deux gros événements cet été. En France, difficile de passer à côté des Jeux Olympiques de Paris qui commencent le 26 juillet. Mais avant ça, il y a l'Euro de football en Allemagne. La compétition aura lieu du 14 juin au 14 juillet. Pour le reste, le résistant d'origine arménienne Missak Manoukian va entrer au Panthéon le 21 février. Puis deux grands anniversaires. Le 6 juin, on célèbre les 80 ans du débarquement sur les plages normandes avec d'importantes festivités. Et le 16 avril, une première messe se tiendra dans la cathédrale Notre-Dame, tout juste 5 ans après l'incendie qui l'avait ravagé.
Merci à tous les chroniqueurs pour leur participation et surtout merci à vous tous de nous écouter. Merci aussi à Valentine qui s'est occupée de la régie aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode, mais je vous rassure, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actualités. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.